Bonsoir à toutes nos excuses pour les retards avec lesquels nous commençons cette émission. Province du Nord Kivu, la situation reste tendue ce lundi autour des villages Mpeti et Malemo dans le territoire de Walikale et Masisi. À la base, une intensification des combats au troisième jour consécutif entre les rebelles de la FCM-23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise soutenue par le Wazalendo. Alors que des processus de paix sont en cours, les deux parties, l'armée congolaise et le mouvement FCM-23 se rejettent mutuellement la responsabilité de cette nouvelle escalade des violences. Quelles sont les conséquences d'une telle escalade sur le processus de paix mis en place? Nous en parlons ce soir avec Achille Kapanga. Il est avocat, analyste indépendant et expert dans le domaine de la sécurité. Maître Achille Kapanga, bonsoir.
Merci beaucoup, madame. Je vous salue. Je suis le co-débatteur et tout le monde qui me suit à l'instant.
Joas Henris Elisha Biamungu, spécialiste de la région des Grands Lacs, directeur de l'Académie de la citoyenneté RDC et président du conseil d'administration de l'organisation non violente Alerte Nova RDC. Bonsoir Joas.
Bonsoir Madame Kelly et bonsoir à mon co-débatteur.
Et Henri Pacifique Mayala, il est coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
À Goma, en Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Des affrontements opposent depuis le week-end les FARDC soutenus par des combattants Wazalendo et la FCM-23 soutenus par le Rwanda au Nord Kivu et au Sud Kivu. Cette reprise des hostilités intervient dans un contexte de tensions croissantes marquées par des accusations mutuelles de violations du cessez-le-feu alors que les négociations entre les deux parties sous médiation qatari piétinent, ce qui ravive le spectre d'une reprise généralisée des combats. Les explications avec vous, Martial Papimoukeba.
Si les pourparlers du Qatar nourrissent encore un espoir de paix pour les populations, les discussions restent bloquées sur quelques points majeurs, ce qui renforce la méfiance entre les deux camps. La FCM-23 exige toujours la libération immédiate de ses prisonniers et la reconnaissance d'un partage du pouvoir dans les zones qu'il contrôle. De son côté, le gouvernement refuse toute concession qu'il considère comme une légitimation de la perte des territoires nationaux ou la libération des détenus stratégiques. Un accord d'échange des prisonniers a bien été signé, mais le manque de confiance entre les deux parties freine toute avancée. Conséquence, les bras de fer persistent, les frustrations s'accumulent et l'absence de progrès alimente les tensions. Sur le terrain, au Nord Kivu comme au Sud Kivu, les armes ont repris. La FCM-23 a même occupé de nouvelles localités. Plusieurs sources confirment un renforcement en hommes et en matériel sur les lignes de front et redoutent une reprise des combats à grande échelle. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci Martial Papimoukeba pour ce reportage. Avant d'aborder le sujet retenu pour l'émission d'aujourd'hui, actualité oblige, commençons notre débat par la démission du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, de son poste. Vital Kamerhe déposant début de soirée sa démission devant la conférence des présidents selon des députés contactés. La plénière convoquée pour examiner le rapport de la commission spéciale mise en place pour analyser les pétitions contre cinq membres du bureau dont Vital Kamerhe lui-même est toujours attendu. Mais d'autres sources nous disent que l'annonce officielle sera faite lors de la plénière d'aujourd'hui qui va commencer dans quelques instants au palais du peuple. Alors, brève réaction par rapport à cette démission de Vital Kamerhe qui est annoncée. Hein. Achille Kapanga, vous êtes un analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. Vous êtes également avocat. Comment vous analysez ce geste posé par Vital Kamerhe?
Bon, en fait, moi, je pense que Vital Kamerhe a compris que les carottes étaient déjà cuites. Il ne fallait pas qu'il sorte par peut-être avec humiliation, il a fallu qu'il même se retire avant que tout ce qui était déjà fait arrive. Avec tout ce qui a été fait au début, il était reçu par le chef de l'État, il croyait avoir déjà peut-être reçu une confiance ou bien une garantie, mais quand vous avez approfondi la question, vous avez compris que son départ était imminent, il n'y avait même plus moyen de changer de donne. Voilà pourquoi je pense que avec les conseils qu'il a reçus des autres, son expérience également, bon, on était ridicule. On va dire non, on a fait chasser Kamere, c'est prudent pour lui de démissionner. Et moi, cet acte-là, je le loue et je le remercie pour ça, puisqu'il a fait preuve d'une maturité politique. Et il fait croire, il fait comprendre aux autres que ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas lui qu'eux cherchent, ils cherchent autre chose. Et c'est là où je suis en train de dire que dans ce pays, nous avons un problème très sérieux, puisque nous avons le problème des politiques. Donc, on a les politiciens à quantité, mais non à qualité. Vous verrez dans cette Assemblée nationale-là, 60% sont déjà dons. Quand vous lisez les CV, les premières fonctions, c'est député national. Alors, vous les mettez devant un Kamere qui a plus de 20-30 ans d'expérience politique. Alors, cet écart-là devait toujours vous amener vers là. Puisque lui, la façon de réfléchir, la façon d'agir par rapport à ses collègues qui sont dans leur premier pas en politique, et ils ne voient peut-être que l'argent, beaucoup n'ont pas de vision, ils ne voient que leur base électorale, et c'est tout. Donc, ils sont limités à ça. Donc vous verrez quelqu'un qui depuis le début du mandat, il n'a aucune initiative parlementaire, il ne sait rien. On va se dire que non, on doit augmenter notre argent, vous devez signer la pétition. Et il signe. Quand vous lui demandez pourquoi vous avez signé, non, c'est puisqu'on doit nous augmenter, mais on ne donne pas notre salaire. Donc, devant de tels députés, je pense que quand même, c'est forcé même. Vous voyez même pendant certaines plénières, il arrivait qu'il chassait même certains devant les micros. Donc, un député ne sait même pas comment s'exprimer. Il ne sait même pas ce qu'il vient dire de au perchoir. Alors, toutes ces réalités-là, moi, je pense que il n'y a pas ni perdant, ni gagnant. Kamere est parti, c'est le calme, mais que l'Assemblée voudra nous prouve que le problème, ce n'était pas Kamere. Maintenant qu'il travaille pour que les gens comprennent que ce n'était pas Kamere le problème et qu'on voit maintenant les solutions au problème sont là. Et non pas seulement pour les intérêts, mais pour l'intérêt du peuple congolais, madame.
Alors, Joas Henri Selisha Biamungo, vous êtes, excusez-moi, spécialiste de la région des Grands Lacs, directeur de l'Académie de la Citoyenneté, RDC, et président du conseil d'administration de l'organisation Non-Violence Alerte Nova RDC. Alors, Vital Kamere dit son aller pour son honneur et pour ne pas diviser sa famille politique.
Merci beaucoup, Madame Kelly, pour la parole. J'ai commencé mon intervention ce soir en saluant mes compatriotes de la ville de Goma et de la ville de Bukavu, de toute cette partie est de la République démocratique du Congo, qui vivent encore sous la terreur de M23 AFC et sous les désespoirs, ne sachant pas à qui croire. Les camps AFC M23 derrière bien sûr Joseph Kabila et ou soit Félix Tshisekedi pour lesquels le retard pour trouver la solution à cette crise qui continue à faire souffrir nos populations. À ce qui concerne la démission de Vital Kamere, je crois que c'est encore une autre mauvaise image que nous montrons une autre mauvaise image que nous montrons au M23 FC. Nous leur montrons que notre gouvernement n'est pas prêt ou n'est pas organisé. Ou soit notre gouvernement n'est pas uni, voulais-je dire. Parce que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi forment un seul bloc. Et c'est comme si l'histoire était en train de se répéter. Vous allez comprendre avec moi que cette crise de l'Est de la RDC avait encore une fois précédé la chute de Jeannine Mabunda à cette même perchoir de notre Assemblée nationale. Et juste après la chute de Jeannine Mabunda, il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations comme quoi nous allons déstabiliser le pays. Il y a eu les discours de l'honorable Shadary. Il y a eu aussi les discours de John Numbi par rapport à l'Est de la RDC. Et si jamais encore aujourd'hui, il n'y a pas eu des leçons prises par rapport à des tels manques de confiance avec les gens avec lesquels notre gouvernement est en train de travailler, nous sommes en train de montrer une mauvaise image, que nous ne sommes pas unis, que nous ne sommes pas prêts à trouver la solution à la crise. Si jamais à l'Assemblée nationale, nous devons encore nous concentrer sur faire tomber les têtes, qui est de trouver la solution à la crise, ça montre combien de fois il n'y a pas de bonne volonté de notre camp.
Pacifique, Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker, un projet conjoint de GEC et Bouteli, Human Rights Watch et Broadway Foundation. Alors, est-ce que cette démission de Vital Kamerhe pourra avoir une incidence hein, sur la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation?
Bonsoir madame, bonsoir et co-débatteurs. D'emblée, les questions qui viennent à l'esprit, c'est le début. La majorité parlementaire s'est questionnée qu'est-ce que représente Vital Kamerhe.
On a du mal à vous suivre, et Henri Pacifique. Votre ligne n'est pas bonne. Essayez de bouger pour améliorer la qualité. Et si vous avez activé le mode main libre, merci de le désactiver.
Alors, je disais donc que les questions qui se posent à ce stade, c'est de savoir si c'est un début de décence politique dans notre culture ou plutôt un repositionnement entre alliés au lendemain. Cependant, il faudrait déjà se rappeler que la coalition...
La ligne n'est pas bonne. La réalisation va essayer de vous rappeler, Henri Pacifique Mayala, parce que là, on a du mal à vous suivre. Revenons à notre sujet du jour, des affrontements opposés. Depuis le week-end, les FRDC soutenus par les combattants Wazalendo à la FCM 23, soutenus par le Rwanda au nord et sud Kivu. Cette reprise des hostilités intervient dans un contexte des tensions croissantes marqué par des accusations mutuelles de violation du cessez-le-feu, alors que les négociations entre les deux parties, sous médiation Qatari, piétine. Alors, que faut-il penser par rapport à tout ça, Achille Kapanga?
Merci beaucoup, madame. Moi, je pense que nous devons nous poser une question. Cette guerre-là, ou bien cette guerre à répétition, se dit à quoi? Parce qu'on peut se dire, oui, ils ont encore repris les hostilités, ils se sont encore bâtis, ils ont pris des villages et qu'on sort. Mais c'est une histoire qui ne commence pas aujourd'hui. Cette guerre-là est due à quoi? On a suivi le chef de l'État qui criait le Rwanda, Kagame, qu'on sort, bon, minerai, ça a été chanté ainsi. Mais je me dis, qui devait prendre les dispositions pour traverser les causes? Parce qu'il fallait identifier les vraies causes de cette guerre-là. Pourquoi peut-être Nanga est là? Pourquoi on peut citer Kabila? Pourquoi derrière le Rwanda? Pourquoi? Ce sont les questions profondes sur lesquelles d'abord on devait réfléchir. Après avoir su les causes, maintenant on devait chercher des solutions. Parce que cette guerre, madame, je l'avais même répété un jour, il y a trois dimensions. Il y a les dimensions internes, qui sont les dimensions les plus importantes. Ces dysfonctionnements, ces inégalités, cette injustice, c'est parmi les causes interne. Mais si le plat aussi régional sous régional, on l'a toujours répété, les pays voisins, quand vous vous dites que non, le Kenya est en train de faire ceci, le Rwanda fait cela, l'Ouganda fait cela, nous, ces causes-là, on les tient comment, on les prend comment. Et maintenant, si le plat international, on vous dit, nous sommes à Doha, nous sommes aux États-Unis, Français, tous ces États-là, Union Européenne, je ne sais pas, Nations Unies, ces questions-là, comment la RDC les gère? C'est là où il y a le problème. Parce que si nous ne savons pas gérer nos questions internes avec sérénité, avec sérosité, ce sont là les causes. Si au moins nous pouvions faire face à une bonne gouvernance et améliorer certaines conditions, on vous dirait que non, effectivement, voilà, ça marche au Congo. Mais quand à Kinshasa, où il y a la capitale, on vous dit que vous ne pouvez pas peut-être passer deux jours sans attendre les mots de tournement, et non pas de n'importe quel chiffre, des millions. Et voilà la situation du peuple congolais, c'est sur la souffrance, le malheur. Mais ça peut toucher, ça peut toucher. Les grèves tout le jour. Tantôt on dit non, lui touche sur autant, et l'autre ne le touche pas. Ce sont là les questions. Si le plan sous-régional, les Rwanda, pourquoi nous devons chaque fois crier Rwanda? Comment devons faire avec le Rwanda pour mieux faire? Quels sont les mécanismes que nous avons mis sur place pour échapper un peu au piège rwandais? Voilà, madame, quand on aura déjà compris les causes réelles de la guerre, on saura maintenant comment trouver des solutions. Mais aussi longtemps que nous continuerons à chercher les causes ailleurs, à s'entraquiser, à crier, on ne saura absolument rien faire. C'est dans cette logique-là, si aujourd'hui on est parti à Doha on est parti aux États-Unis et qu'on sort, on pensait que c'était une façon de résoudre la question. Mais ce sont les dimensions internationales. Mais les autres dimensions là.
Est-ce qu'il y a un espoir par rapport à toutes ces initiatives des pays Doha, Washington? Est-ce
Madame,
qu'il faut encore espérer le retour de la paix avec cette reprise des affrontements?
Vous êtes malade. Les médecins vous disent, ces médecins pour vous, vous allez le prendre 3 fois par jour. Ne prenez pas l'alcool. Pendant que vous prenez les produits, ne prenez pas l'alcool. Vous prenez les produits, vous les mettez quelque part. Ou bien vous avez seulement pris une dose, mais les restes des produits, vous ne prenez pas. Et vous commencez encore à reprendre l'alcool. Comment vous allez guérir? Si Doha nous a demandé de faire quelque chose, si les États-Unis nous ont demandé de faire quelque chose, qu'en avons-nous fait? Est-ce que nous avons essayé un peu d'évaluer ce que ces médecins-là nous ont recommandé comme prescription médicale? Là, on nous a prescrit certains médicaments, non? Maintenant, nous qui prenons ces médicaments-là, est-ce que nous avons respecté la prescription médicale? C'est ça la question qu'il faut se poser. En interne, certaines questions internes, comment nous les avons résolues? Aujourd'hui, c'est qu'Amérique doit partir, et demain, je ne sais pas c'est quoi. Bon, toutes ces situations-là, est-ce que ça améliore le climat politique dans notre pays ou bien ça empire? Il faut une prise de conscience, puisque vous savez, le dirigeant peut penser qu'il
donc,
faut la politique.
Donc, il n'y a aucun respect des recommandations de Doha.
Puisque le problème qu'il y a, c'est quoi? L'M23 se cache derrière ça. Il faut maintenant que nous puissions travailler sur ça pour que l'M23 n'ait plus d'échappatoire. Parce que ne cherche que les échappatoires, non? Alors, quand on donne certaines conditions, qu'elle prend pour les échappatoires, quels sont les efforts que nous faisons pour éviter ces échappatoires-là, ou pour traverser ces échappatoires-là? C'est là où il y a le problème. Voilà pourquoi moi ma recommandation est qu'on ne doit pas seulement rester sur les médias, rester sur les déclarations, alors que sur le terrain, rien n'est fait. Non, nous devons être concrets. On a recommandé ça, voilà le niveau que nous avons déjà atteint. Et on sent dans nous une sorte de sérieuxité. Mais quand nous faisons des concessions, mais sur le terrain, rien ne semble marcher, c'est un peu compliqué. Et malheureusement, c'est le peuple qui subit les conséquences.
Mais c'est de deux côtés qu'on ne respecte pas ce qu'on s'est dit à Doha ou à Washington.
Madame, moi je vous dis, ces gens-là ne cherchent que les échappatoires. Parce que le gouvernement doit avoir les soucis du peuple. C'est là où moi je suis. Pour sauver le peuple du Nord qui veut le peuple de l'Est, comment nous allons faire pour mettre fin à ces histoires-là? C'est ça la grande question. Est-ce que nous avons les moyens de les faire par guerre ou par voie de guerre? Si on peut les faire par voie de guerre, pourquoi ne pas y aller et en finir? On attend alors quoi? Parce que aussi longtemps que nous attendons, bon, l'ennemi aussi en profite. Et aujourd'hui, vous comprendrez qu'il est atteint un niveau où on ne s'y attendait pas. Ça commence comme ça avec Bounagana. Mais depuis tout ce temps, on fait quoi? C'est ça là où est le danger, madame. Donc moi, je pense que c'est une question de responsabilité et d'engagement et surtout de sérieuxité, madame.
Alors, Joas Henri Selicha, Biamungu, il y a eu un accord d'échange de prisonniers qui a été signé dernièrement entre les deux parties et même les États-Unis avaient salué cette avancée. Mais on sent qu'il y a un manque de confiance hein, entre les deux parties, c'est-à-dire la partie AFCM 23 et le gouvernement. Mmh. Et tout ça freine toute avancée hein, dans ce processus de paix.
Ok. Bien sûr, manque de confiance. Et pourquoi manque de confiance? Parce que certainement, les parties prenantes ne sont pas en train de poser des actes qui encouragent les climats du dialogue. Vous ne pouvez pas être sur la table des dialogues et en même temps organiser des procès contre les personnes avec lesquelles vous êtes en train de chercher la paix ou soit vous êtes en train de dialoguer. Vous ne pouvez pas être sur la table des dialogues et en même temps vous êtes en train de vous affaiblir en forçant vos forces à démissionner ou à vous quitter. À l'occurrence de Vital Kamerhe qui maîtrise bien cette situation de l'Est de la RDC, mais pour lesquels, malheureusement, on est en train de mettre hors de jeu. Et pour moi, je pense que c'est dû aussi à cette mauvaise volonté d'aller vers les climats de paix, d'aller vers la solution à la crise. Pourquoi?
Mauvaise volonté de la part de qui?
Beaucoup plus de la part de notre gouvernement. Pourquoi de la part de notre gouvernement? Parce que si jamais c'était par exemple l'enfant du président de la République qui était entre les mains des rebelles, je suis sûr que ça ne serait pas en train de jouer contre passer le temps. Ou soit, ça ne serait pas des telles actions qu'on serait en train de voir. On chercherait la solution à la crise immédiatement. Pourquoi? Parce que si on regardait la crise de loin, nous allons comprendre aussi que la crise est aussi un peu simple. Simple pourquoi? Parce que le problème est beaucoup plus aussi au niveau individuel. Des personnes qui ne s'attendent pas, mais qui font fuir toute la population. Si jamais Félix Tshisekedi, notre président, et l'ancien président Joseph Kabila allaient s'attendre, bien sûr, on allait trouver la solution à la crise. On n'allait pas recourir à Nairobi, on n'allait pas recourir en Washington. La solution, nous allions trouver la solution ici même au Congo, sans que nous puissions brader ou soit céder nos ressources aux étrangers, alors qu'il y avait moyen de trouver la solution entre nous.
Donc, il ne faut pas compter sur toutes ces solutions qui viennent de l'extérieur, selon
moi,
vous?
Selon moi, je pense que la solution, elle est au Congo. Aussi longtemps que les vrais acteurs de cette crise sont des Congolais, nous avons, monsieur, notre président et l'ancien président qui ne s'attendent pas, c'est déjà clair, ce n'est plus à cacher. Ils devaient juste se mettre ensemble et on trouve la solution à la crise. Donc, il y a cette mauvaise volonté. C'est profitable de part et d'autre. Ça prend du temps parce que si jamais les Congolais disent que nous, les Congolais, nous disons que c'est à cause des minerais seulement qu'il y a cette guerre, les pillages des ressources se faisaient même avant que 1-23 ne s'exprime. 1-23 est venu s'exprimer juste une année après la chute de Jeanine Mabunda. Donc c'est très clair que le problème c'est d'abord entre des politiciens congolais. Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi voulais-je dire, et l'ancien président Joseph Kabila.
Alors on a signé les cessez-le-feu, les deux parties ou les parties en conflit avaient décidé de respecter le cessez-le-feu, ce qui n'est pas le cas sur les terrains. Voilà, l'armée congolaise et le M23 se rejettent mutuellement la responsabilité de cette nouvelle escalade. Personne ne veut assumer. Hein. Voilà, comment on peut comprendre ça? Quels sont les enjeux derrière toutes ces déclarations? Non, c'est pas moi, c'est le M23 qui dit non, c'est pas moi, c'est le gouvernement congolais. Est-ce que c'est pour tirer les choses en longueur? Est-ce qu'il n'y a pas de volonté d'en finir avec cette guerre une fois pour toutes?
Oui, beaucoup plus tirer la situation à longueur. Parce que d'un côté, ça doit prendre du temps pour pérenniser le pouvoir. De l'autre côté, ça prend du temps pour se réorganiser. Et aller encore jusqu'au bout, malheureusement. Et si jamais on devait parler de cesser les faits, pour nous, c'est une honte. Enfin, c'est depuis Bounagana qu'on crie violation de cesser les faits. Ça qui est chute de Goma, chute de Bukavu, violation toujours de cesser les faits. Et donc, c'est une honte pour notre pays, vu sa grandeur, vu ses ressources.
Merci, Joas. Alors, Frédéric, Henri Pacifique, vous êtes en ligne?
Oui, Madame Kelly, est-ce que vous me suivez?
Oui, on vous suit. Vous avez la parole. Hein? D'abord, votre réaction par rapport à la démission de Vital Kamerhe, très brièvement, avant d'aborder le sujet du jour ou du soir.
Concernant la démission du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, les questions qui viennent à l'esprit, c'est plutôt est-ce qu'il s'agit d'un début de sens politique et culture de rélevabilité, et c'est plutôt un repositionnement entre alliés politiques à l'aube de l'exercice électoral qui s'annonce pour 2028. Je pense que le temps que nous attendrons voir les rapports de la commission spéciale qui a été mise sur pied, il faudrait surtout regarder aussi les circonstances dans lesquelles nous avons eu cette coalition ou en tout cas FCC. Je voudrais plus parler de l'UDPS et l'UNC. Lorsque nous avons cette coalition, à la base, ce n'est pas une coalition qui semble reposer sur une vision ou une idéologie politique. Tout porte à croire qu'il s'agissait plutôt des intérêts conjoncturels. Et à ce stade, ça semble plutôt se confirmer. Comme vous le savez, à Ebouteli, en dehors de notre baromètre sécuritaire, nous tenons aussi un baromètre parlementaire accessible sur talatala.cd. Et déjà l'année passée, nous avions plus ou moins produit un rapport qui documentait une certaine tension entre le rôle de contre-pouvoir que devait, d'une certaine façon, jouer l'Assemblée nationale à sa tête, l'honorable Vital Kamerhe, avec les éventuelles pressions qui pouvaient résulter des forces majeures ou forces prédominantes au sein de cette même institution. Le temps nous en dira peut-être un peu plus, mais ça vient sans surprise.
Alors,
s'il faut revenir sur le sujet du jour, moi je pense que pour tous les observateurs avertis, et je pense que c'était encore du haut de ce micro que je disais tous les processus en cours, avec leurs forces et faiblesses, ambiguïté et conflit, il n'y avait pas une certaine assurance, surtout pour ceux qui ont été forcés de quitter leur maison, les proches, leur vie. De part et d'autre, on a eu comme l'impression que les parties à ce conflit n'ont fait que s'accorder du temps. C'est-à-dire que la logique militaire n'a pas disparu au même moment où on nous a vendu la prétention de vouloir se mettre sur la table pour envisager des solutions pacifiques. Je pense que comme le soulevaient les co-débatteurs, à un certain niveau, à l'interne, nous avons toute une panoplie de solutions qui, d'une certaine façon, pouvaient assister le désamorçage de cette crise. Mais on a vu que la volonté politique n'était pas au rendez-vous. D'autre part, la logique militaire n'a pas cessé d'être au premier rang de priorité de toutes les parties. Nous avons vu d'une part le M23 qui a présenté ses nouveaux formés, d'autre part le gouvernement ne cesse de plutôt appliquer certaines interventions, quoique indirectes, pas sur le terrain. Ce qui nous remonte, c'est que malgré que les négociations aient commencé, les affrontements sur le terrain n'ont jamais cessé. À ce stade, le positionnement du M23 est plutôt clair. De la même façon, je pense que du côté du gouvernement, aussi user de la force, quoique la petite nuance à apporter ici, c'est que le gouvernement continuera toujours de jouir de ce bénéfice de doute pour pouvoir user de la violence ou de la force, étant ou bénéficiant d'une certaine légitimité. Par ailleurs, lorsqu'il faut rentrer dans les fonds de ce que présente sur la table comme préoccupation, ceux qui ont décidé de choisir la voie des armes, ce n'est pas tout à fait quelque chose à balayer de revers de la main. Aujourd'hui, nous avons une opposition politique qui ne bénéficie d'aucune considération par le pouvoir en place et ça craint que ça ne radicalise davantage les acteurs sociaux politiques. Du coup, je pense qu'il faudrait reconsidérer la donne, essayer de comprendre que les options militaires ont montré de part et d'autre leurs limites lorsqu'on considère le coût financier, humanitaire de cette crise et lorsqu'on regarde toutes les propositions de sortie des crises, notamment le pacte social prôné par les réfugiés du pays. Je pense que c'est un appel à un devoir civique et les uns et les autres devraient plus ou moins remettre un peu d'eau dans le vin.
Alors, Henri Pacifique, Mayala, le fait que ces violences éclatent alors que des processus de paix sont en cours, voilà, comment on peut expliquer ce paradoxe? Est-ce qu'on peut conclure ou est-ce que cela peut signifier que tous ces processus sont un échec?
Je pense que ces processus n'ont jamais été assez sincères. Parce que lorsqu'on voit comment est-ce que Luanda a échoué alors qu'on était vraiment tout près d'aboutir à un accord de paix, on se dit que oui, le Rwanda a toujours eu des attitudes belliqueuses à l'égard du Congo, mais comme le soulevait tantôt l'un de mes co-débatteurs, c'est qu'il y a aussi des tensions internes. Et aujourd'hui, je pense que depuis que Goma et Bukavu tombaient sous contrôle de la rébellion FCM-23, et peut-être encore un peu avant, la crise avait quitté la dimension sécuritaire pour se manifester dans une amplitude politique. Nous étions partis du coup d'un président qui était plutôt assez percuteur sur le dialogue tentant dans le sens à la modification de la Constitution, vers un président assez conciliant qui revenait sur les lignes rouges de temps. Aujourd'hui, les gens sont en train de discuter, mais encore, lorsque vous regardez sur le terrain, la mobilisation militaire a continué de part et d'autre. Donc, pour moi, je pense que la non-implication aussi des la touche des sociétés civiles et des populations qui subissent ces armes est plutôt inquiétante. Parce qu'aujourd'hui, même les députés nationaux, dans la mesure où on ne peut pas impliquer toutes les populations dans les discussions, à la limite, toutes ces populations à l'Est, des députés nationaux à Kinshasa, dont la majorité se retrouve à la commission défense et sécurité, mais aussi, ils apprennent, comme nous tous, de tous les engagements que prend la République envers les partis qui ont décidé de prendre les armes. La position, la question qui se pose, Madame Kelly, c'est même si on aboutissait à un accord de paix, qu'adviendra-t-il de l'appropriation de ces accords-là? Parce que les populations ne sont pas consultés à la base, ils ne sont pas impliqués, que ça soit directement ou indirectement. Et cela pose problème.
Merci Henri Pacifique Mayala. On va ouvrir notre standard pour écouter ces auditeurs qui sont en ligne, qui attendent. On va aller à Bukavu, non, à Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour écouter Fabien Matengo.
Fabien Matengo, depuis la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo. L'escalade des combats entre l'armée congolaise, les Wazalendo et les mouvements AFC M23 a plusieurs conséquences graves sur les processus de paix en cours. Perte de confiance entre les partis. Lorsque les combats prennent malgré les négociations, cela affaiblit la crédibilité des accords de paix. Chaque cas accuse l'autre de violer les engagements, ce qui rend difficile toutes les avancées. Les négociateurs et les médiateurs peuvent aussi perdre espoir ou se désengager. D. Suspension ou blocage des négociations. Une intensification des hostilités peut conduire à l'arrêt des pourparlers, la reprise d'anciens conflits, les retraits des partenaires internationaux qui soutiennent la paix. Donc, l'escalade actuelle mine profondément les processus de paix en RDC. Pour espérer une solution durable, un cessez-le-feu immédiat, un engagement sincère des deux camps et une pression internationale plus ferme sont indispensables. Sans cela, les efforts diplomatiques risquent de s'effondrer au détriment des millions de civils.
Alors, je vais ajouter cette réaction d'Aimé, Dr. Kayombo, qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Kapi. Il est à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Les rebelles ne veulent pas dialoguer. On est passé par Luanda, Nairobi, etc., Doha et Washington, mais rien ne marche. Je vais demander aux autorités de la RDC de dialoguer en interne avec tous les acteurs politiques. Nos frères de Goma et Bukavu souffrent. Alors, maître, vous avez la parole.
Moi, je pense que c'est aussi bon quand on vote les lois qu'on les mette en application. Il y a une belle loi, c'est la programmation militaire, qui avait déjà été votée à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Cette loi, si elle était suivie, on ne serait même pas là où on est aujourd'hui. Le président de la République a même signé une ordonnance qui consacre, ou bien qui crée la RAD, Réserve Armée de la Défense. C'était pour que tous ces amis-là, parce que ce sont les anciens Maï-Maï qui sont transformés aujourd'hui à Ouazalendro. C'est juste une terminologie qui a changé. Tous ces anciens Maï-Maï-là qui faisaient toujours le terrain depuis le passé, qui faisaient tout ce qu'ils faisaient depuis tout ce temps-là, maintenant avec les nouveaux vocables de Ouazalendro, tout le monde demande à adopter ça. On ne parle plus de Maï-Maï, non. Tout le monde est devenu maintenant aujourd'hui Ouazalendro. Et là, maintenant, il fallait que la RAD ait des moyens pour que tous ces anciens Maï-Maï-là soient bien formés comme des réservistes et qu'ils soient maintenant, qu'ils aient des capacités à tous les niveaux. Malheureusement, ce sont les mêmes attitudes, les mêmes habitudes qu'ils avaient qui sont en train de pérenniser. Or, tu pouvais ne fût-ce que passer par une formation, laver un peu leur morale, leur montrer comment doit se comporter un réserviste. C'était la belle voie. Mais cette voie-là n'a pas été exploitée. Voilà pourquoi vous verrez même tout le monde qui s'est dit Ouazalendro. Aujourd'hui, chacun est chef est chef de ce groupe. Essayez de faire une coordination. Comme il y a déjà aussi certaines autorités au niveau de la capitale qui attirent profit, ça devient encore très compliqué. Or, si vous pouvez laisser la RAD faire ce travail-là, encadrer ces gens-là, leur doter et tout, ils auraient maintenant l'attitude militaire et on mettrait fait à tous ces désordres-là. Voilà pourquoi je suis en train d'assister aujourd'hui à ce qu'on peut appeler affrontement entre Ouazalendro, peut-être on est en train de tuer la population, puisque ce sont les mêmes attitudes-là qui n'ont pas changé. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme elle le disait, qu'il y a peut-être 7000 hommes qu'on a montrés à Goma, que les amis, que les gens des Goma. Moi, je pense que on doit cesser de jouer avec l'homme congolais. Ces papas-là, quand vous les voyez aujourd'hui, madame, ils sont capables à quoi? Ils ont travaillé depuis Mobutu, puisque la retraite de notre armée, même de notre police, c'est tout un problème. Ces papas-là vont souffrir de quoi? Et de deux, si aujourd'hui on peut parler de guerre à l'Est, moi, je me pose une question. Nanga, où est-ce qu'il tire les armes? Parce que Kagame peut vous doter des armes aujourd'hui, et les mercenaires et consorts. Mais quand ils vont réclamer leurs droits, c'est le peuple qui va toujours payer ça. Nanga n'aura pas les moyens pour payer toutes ces armes-là. Donc, c'est toujours le peuple congolais qui est en train d'être conduit dans les gouffres et dans la pauvreté, à tel point que ces gens-là viennent trop exploiter, puisqu'ils ont donné les armes, ils ont donné tout ce qu'ils veulent donner, ils ont donné pour que la rébellion avance. Maintenant, quand ils vont tirer leur profit, le peuple sera où? Voilà pourquoi, pour rejoindre l'idée de l'ami là de Boutelli, je voulais seulement dire ceci. Les dialogues dont on est en train de parler dans notre pays, c'est bon. Mais les dialogues là, à quel format et quelles sont les intentions des gens qui veulent dialoguer? Parce que vous savez, quand on veut venir dialoguer, c'était pour le poste, pour que je me retrouve aussi.
Les dialogues n'ont plus de sens. Le dialogue à l'interne.
Non, le dialogue là, il faut qu'on donne le sens profond. Il vise quoi? Et ce n'est pas l'occasion pour les amis encore de dire bon, l'Union européenne, venez financer, Monisco, venez financer. Ça devient encore un truc là où les gens vont se retrouver et rien ne tiendra. C'est ça ma peur, madame.
Merci, maître. On va aller on revient à Kinshasa. Hein? Pour écouter cet auditeur qui est en ligne.
Bastien Paul Longoui, depuis Kinshasa à Mongafula. Apparemment, j'ai comme l'impression que les deux protagonistes, en dehors de se renvoyer mutuellement la responsabilité dans cette nouvelle escalade de violence, nous prouvent à suffisance de n'être pas en mesure de fumer les calumets de la paix tant recherchée par les uns, ni encore comprendre l'importance de celle-ci voulue par les autres. Après qu'il y ait eu autant de victimes emportées par cette guerre, d'où, selon moi, les discussions qui se déroulent à distance entre qatariennes comme américaines semble être comme une distraction aux yeux de deux camps, motivés par leur démarche, nonobstant la présence de leurs représentants à la table de négociation, afin de trouver solution à cette crise persistante qui déstabilise la partie Est, en lieu et place d'être qualifié comme un mépris, le processus en cours. Un adage africain dit ceci, le monde guérira lorsqu'il comprendra la supériorité de la paix sur la guerre.
Alors, très rapidement, hein, brièvement, qu'est-ce que vous pensez de la réaction des patients Ngoï?
Ouais, je pense que il vient de renchérir du fait qu'il n'y a pas cette volonté politique d'aller vers directement la solution. Parce que si jamais, au niveau de notre gouvernement, nous ne savons pas valoriser ou favoriser les actions qui encouragent beaucoup plus la paix, il y aura toujours de telles violations, des cessez-les-feux et des principes. Parce que nous allons comprendre que la solution s'y trouve au Congo. Je l'ai dit encore, si jamais notre président, Félix Tshisekedi, s'est metté tête à tête avec l'ancien président Joseph Kabila, nous avons la solution à la crise. À la place, si moi j'étais le président de la République, je pourrais m'attendre avec Joseph Kabila. 18 ans au pouvoir, c'est pas peu. Il maîtrise le Congo, il maîtrise les problèmes du Congo. C'est une force pour nous. Si j'étais le président de la République, j'allais m'appuyer sur Vital Kamerhe. Lui qui, au début de la crise, il a déjà proposé de dialoguer avec l'ennemi, avec AFC-M23, et qui après, plus tard encore, nous acceptions les dialogues.
Mais le gouvernement dialogue déjà avec l'AFC-M23
oui, à Doha. Oui, bien sûr, nous dialoguons maintenant, mais après la chute de la ville de Goma et de la ville de Bukavu. Et voilà encore après, même si nous dialoguons, regarde encore les résultats. Toutefois, en donnant le temps encore à FC-M23, ils sont en train de s'organiser pour aller encore plus loin que là où ils sont actuellement. Et donc, beaucoup plus la prise de conscience au niveau de notre gouvernement, maintenir le pouvoir le plus longtemps possible, c'est une chose, et trouver la solution au problème de la population qui est en train de souffrir sous cette crise, aller aussi une autre. Je crois à la place, je choisirai la solution de la paix, qui est de prendre d'autres choix qui sont entrés encore beaucoup plus de ne pas favoriser les dialogues.
Alors, Luc Cassolet pense que cette guerre finira par le dialogue. Même la première et la deuxième guerre mondiale, les belligérants ont été obligés de négocier pour mettre fin à la guerre. Mais Stalon Chabani pense que les rebelles ne sont pas là pour la paix. Ils cherchent leurs propres intérêts. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout. C'est la réaction de Stalon Chabani. Josué Kongolo se demande pourquoi aller chercher des solutions à gauche à droite alors qu'elles ne sont pas mises en application. Nos frères du Kivu souffrent. Merci à Jean-Félix Ilunga qui nous suit depuis la province du Lualaba. On va prendre ce dernier auditeur qui est à Kinshasa aussi. On va l'écouter puis on revient pour la suite.
Grâce Kalaki, ville province de Kinshasa. Le processus de la paix semble déjà piétiné, car les discussions de Doha n'avancent qu'à pas de tortue. Au stade actuel, pour la paix, le président Tshisekedi doit convoquer d'urgence le dialogue social afin d'inviter les groupes de l'Est à y participer pour qu'ils déposent les armes. C'est contenter seulement des discussions de paix. D'ailleurs, Doha, Union africaine, Washington, c'est retarder la paix en RDC.
Alors, Henri Pacifique, Mayala, est-ce que le dialogue est encore possible?
Je continue de penser que oui, madame. Mais avant peut-être de réagir directement sur la question de notre auditeur, je voulais revenir sur l'opinion de mon co-débatteur sur la RAD. Et j'ai toujours soutenu que le Congo, en tant que pays souverain, on ne peut pas lui refuser de disposer d'une force de réserve. Mais tout réside sur comment procéder. Et ici, nous allons nous souvenir que la formalisation de cette collaboration entre les groupes armés et les FRDC commence autour de mai, en tout cas, mi-2022, avec la réunion de Kinga, mais que la loi qui, d'une certaine façon, formalise toute cette initiative ne vient que seulement une année après, autour de avril-mai 2023. Ce qui en soi constituait déjà une entorse et peut-être la cause de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec cette cohabitation devenue impossible, si pas difficile, avec les Wazalendo et les FRDC ou Uvira ou dans toutes les autres contrées que continue de contrôler le gouvernement au nord et au sud. Revenons sur le processus de paix. Je déclamais encore ici ce manque d'inclusivité. Les pays n'ont pas d'amitié, c'est plutôt les intérêts. On a tous été surpris à voir le président Félix avec le président Folkagané au Qatar. Mais plus loin, il fallait comprendre que si et seulement si le Qatar n'avait pas d'intérêt économique au Rwanda, ils n'allaient pas s'impliquer. Même chose pour le Congo. Quel est l'intérêt réel des Qataris, des Américains, dans tout ce sur quoi nous sommes en train de perdre le temps, je m'excuse pour cette formulation, à pouvoir nous ramener la paix? Parce qu'il ne faudrait pas oublier que, oui, il y a une dimension externe à ce conflit, mais il y a aussi des préoccupations qui nécessitent d'être adressées entre les six pays, et ce n'est pas, ce ne sont pas les initiatives congolo-congolaises qui manquent. Et à un moment donné, je pense que si nous sommes vraiment motivés par une quête, une paix durable, il faudrait plutôt regarder dans cette direction. Et l'une des initiatives sur la table et qui pose, qui offre en tout cas un maximum de chances, c'est ce pacte social que proposent les évêques.
Félix Mouishimba, voilà, pense qu'au lieu d'aller de dialogue en dialogue, ce qui est un passe-temps, la RDC, d'organiser son armée pour affronter le pays qui l'agresse, c'est-à-dire le Rwanda. Et ce n'est que cette voie qui va amener la paix dans notre pays. Merci à Veston Wilonja qui nous suit depuis Baraka, au sud Kivu. Alors, vous avez... 1 minute 45 secondes à chacun pour la conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission. Quelles sont finalement les solutions concrètes ou les actions à envisager pour que tous ces documents, tout ce qu'on signe lorsque on se retrouve à l'étranger soit respecté, Maître Achille Kapanga?
Ça se signe à l'étranger pour être exécuté au Congo. Qui doit exécuter? Ça sont les décisions de la RDC, non? Est-ce que les gestions de la RDC font réellement leur travail?
Les partis au conflit.
Les partis au conflit aussi, oui. Disons que le Rwanda et ses alliés ont leur plan. Leur plan a déjà été compris et étudié. Je pense que nous avons des technocrates dans ces pays qui doivent comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi Kagame évolue avec l'M23? Ils ont quel plan? Ils ont quel projet? Ça, c'est une question à comprendre facilement. Ces projets-là, comment on peut les contrecarrer? Est-ce que ce n'est pas des déclarations ou bien pas des actions concrètes? Ça, c'est un. Et de deux, nous, Congolais, est-ce que les gestions de la RDC font réellement bien leur travail? Quand vous arrivez peut-être au Parlement, si ce ne sont pas des guerres, chassés, camères et consorts, qu'est-ce qui s'est fait des congrès pour l'intérêt du peuple là-bas? Le gouvernement, remaniement qui arrive, les ministres qui sont seulement à Kinshasa, les voir peut-être dans d'autres provinces, c'est pratiquement interdit, même inutile. Comment les ministres vont seulement rester les ministres nationaux de Kinshasa quand il y a des réalités sur le terrain où ils doivent aller inspecter et travailler? La justice, oui madame, la justice par exemple. On a vu Moutamba et consorts, c'est là où nous sommes. Finalement, nous voulons amener le pays où? Moi, je pense que la solution est simple. Si le gouvernement veut devenir gouvernement, il a les textes légaux qui lui donnent les attributions, qu'il exécute les attributions que les textes légaux de la Constitution lui donnent. Par rapport au pacte social, c'est par là que je voulais terminer, le pacte social n'a jamais été mauvais. Non. Mais on se pose une question. Le pacte-là va réunir qui et qui? Est-ce que ça va réunir le M23 et le gouvernement? C'est là où il y a ma question. Le pacte social dont on parle, est-ce que les Nanga et consorts viendront à Kinshasa?
Je pense que les catholiques, les protestants ont déjà répondu à cette préoccupation. C'est un dialogue qui va réunir tous les fils et toutes les filles du Congo.
Madame, réunir tous ces gens-là, mais ce sont des mécanismes sérieux qu'il faut mettre en jeu. Ce ne sont pas seulement des déclarations, on doit faire la radio, non, il faut vraiment que les gens s'y mettent sérieusement, au constat qu'il y a des volontés et des moyens.
Merci, Maître Achille. Alors, votre conclusion, Jonathan Louis.
Je vais conclure en disant que la population de Goma, la population de Bukavu, de Bouzibulenga, en a marre. n'y connaît pas à qui faire confiance, M23 ou le gouvernement congolais, vu le temps que le processus de paix est en train de prendre. Une autre chose, je demanderai à notre gouvernement de saisir cette opportunité nous offerte par la CENCO et l'Église protestante, qui demande à ce que nous puissions nous mettre autour de la table pour trouver la solution à la crise. Faire confiance au gouvernement congolais, c'est mérite, et ça mérite par des petites actions. Comme par exemple, bannir les mauvaises odeurs dans la ville de Kinshasa. Kinshasa, on en a marre, on est en train de souffrir, les ordures un peu partout. Ce sont des petits gestes qui montrent que nous sommes capables de faire face à de grands enjeux comme la crise et comme la guerre. Merci beaucoup, madame.
Merci, Joas Henri, Elisha Biamungu. Frédéric Amani, votre conclusion. Plutôt, Henri Pacifique Mayala, votre conclusion.
Oui, madame Kelly, je pense qu'il est toujours possible de faire des passerelles, de jeter des passerelles sur toute cette panoplie d'initiatives et processus en cours, en vue de pouvoir espérer au retour d'une paix. Mais cependant, cela va nécessiter beaucoup de volonté politique, pensant dès les dimensions personnelles, c'est que dans la culture politique congolaise, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense qu'il faudrait aussi que, d'autre part, la population ne reste pas passive. Aujourd'hui, il s'agit de Goma et de Bukavu. Nous ne savons pas de quoi sera fait le lendemain. Parce qu'après, il faut prendre en considération que lorsqu'on minimise les acteurs de la société civile, lorsqu'on minimise l'opposition républicaine et que l'on est seulement attentive à la force ou à la violence, ça radicalise les acteurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une position où on est obligé de conjuguer avec des personnes qui ont pris les armes et se sont battues pendant 4 années. Si on ne dispose pas d'une contre-offensive à pouvoir balancer les rapports des forces sur le terrain, il n'y a aucun mal à s'asseoir et à discuter.
Merci Henri Pacifique Mayala. Merci également Eustache Tsaombola. Vous nous suivez depuis Butembo. Vous êtes très nombreux à suivre Radio Okapi dans cette ville. Valérie Ndjibou, vous êtes à Goma. Merci beaucoup Alain Mwamba. Vous êtes aussi à Goma. Merci à Philo Amini. Vous nous suivez depuis Bukavu. Alain Goy, Dieudonné Nyangata, Nelson Nyombe, Elok Katumbi et moi-même Kéline Kouté, nous vous disons merci d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Restez branchés sur la fréquence de la paix.